Voix nue. Cette semaine, Aurélie Luneau rencontre Jean-Claude Amezen. Ce soir, une voix pour célébrer la vie. Bonsoir Jean-Claude Amezen.
Bonsoir.
Alors de l'enfant nourri aux humanités, qui mêlait l'art, la littérature, la culture, les sciences, jusqu'au médecin, devenu chercheur, immunologiste de renom, défenseur des droits de la personne, nous avons découvert beaucoup de facettes qui composent votre personnalité et qui expliquent aussi ce parcours extrêmement riche. Mais tout cela prend sens dans votre relation au monde, à la nature et à l'environnement. Tout est lié.
Oui, tout est lié. Ce que nous sommes, la manière dont nous entrons en relation les uns avec les autres et notre environnement, la nature, notre planète et notre environnement. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé extrêmement émouvant dans l'œuvre de Darwin, hein, dans la théorie de l'évolution du vivant, c'est qu'elle nous a permis de découvrir que la nature n'est pas simplement notre environnement, ce qui nous entoure, mais aussi ce qui nous a fait naître, hein, notre berceau, et que nous sommes les cousins des oiseaux, des arbres, des papillons, des fleurs. Et puis après Darwin, les astrophysiciens se sont aperçus que l'univers lui-même n'avait cessé de se métamorphoser, d'évoluer, comme le vivant, depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, depuis le début du XXe siècle, nous sommes devenus aussi les cousins et les descendants des étoiles. Il y a quelque chose d'émouvant à penser que c'est ce bouleversement dans les recherches et dans les recherches sur le vivant ont changé profondément notre façon de nous considérer dans le monde et dans l'univers. Et donc je pense que cette dimension affective et émotionnelle, elle fait partie aussi de notre relation à la nature.
Donc un monde, un environnement, un univers, source toujours d'émerveillement, mais source aussi de questionnement. On n'a pas les réponses à tout, et c'est ce qui est magique aussi, hein, dans cette façon de nous placer au milieu de la nature. Vous parliez de Darwin, Jean-Claude Amezen. Est-ce que on peut dire qu'il est un modèle pour vous ?
Il est un des modèles ou des exemples, ou en tout cas l'une des grandes étapes, mais il y en a aussi dans le domaine de la pensée en dehors de la science, hein, et il y en a en philosophie, il y en a dans l'art. Cette idée au fond que nous sommes des héritiers d'une longue succession, hein, de penseurs, de créateurs. Et chez Darwin, moi, ce qui me touche beaucoup, indépendamment de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il a concilié une œuvre révolutionnaire à l'époque dans les sciences du vivant et dans la façon d'ailleurs dont elle nous replaçait dans le monde, hein, comme une émergence tardive d'une évolution qui ne nous avait pas prévue, hein, et non pas comme le centre du monde vivant. C'est que, en dehors de cette révolution scientifique, et en même temps que cette révolution scientifique, il était engagé dans un combat moral. Et donc, dès sa jeunesse, il était révolté par l'esclavage, par les ravages de la colonisation et par le racisme. Je trouve très beau, hein, le fait de pouvoir essayer de comprendre le monde qui nous entoure et de nous comprendre nous-mêmes, tout en pensant, et c'est ce qu'il disait, qu'au fond, rien ne nous avait prévu et que c'était à nous d'inventer notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres. Et il disait que la plus belle part de notre nature, c'était le souci de l'autre et le souci du plus vulnérable. Il y avait le scientifique qui essayait de comprendre les relations qui existaient entre les êtres vivants et ceux qui leur avaient donné naissance. Et puis il y avait l'homme qui avait voyagé autour du monde et qui avait découvert la façon scandaleuse et tragique dont beaucoup de ses semblables était traité, ce qui l'indignait. Donc je trouve que sur ce plan-là, pour moi, c'est un exemple, c'est un humaniste. C'est un grand scientifique qui est aussi un humaniste.
Mais est-ce qu'il aurait imaginé, Jean-Claude Amezen, l'état du monde aujourd'hui ? Le fait que l'homme s'est mué en homo destructor à tel point que le monde moderne, qu'il a modelé, le rend malade et que nous regardons ailleurs.
C'est pas tant la destruction de la nature, puisque la révolution industrielle qui en est la cause était en train de naître à cette époque. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la destruction des peuples, la destruction des hommes, la disparition de certaines populations, il a de son vivant. Les derniers Tasmaniens, les derniers habitants autochtones de la Tasmanie ont disparu. Et donc c'était au fond la puissance destructrice que peut avoir l'humanité, qui est immémoriale, hein, qui est, je veux dire, les conflits, l'esclavage, la destruction, etc. C'est quelque chose que cette puissance destructrice ait pu atteindre maintenant un niveau et un seuil à partir duquel c'est un pan entier de la nature que nous mettons en péril. Je dirais qu'on peut considérer à la fois que c'est une nouveauté, mais on peut considérer aussi que c'est simplement un seuil dans cette tendance destructrice qui anime trop souvent notre nature humaine. Ce qui est particulier, je crois, dans la prise en compte, dans la réalisation aujourd'hui de cette destruction de la nature ou de l'environnement ou ces changements climatiques, cette pollution, c'est le fait qu'on réalise a posteriori que nos actions collectivement ont conduit à quelque chose que peu de personnes avaient préfiguré. Il y avait le Club de Rome, il y a eu des réflexions dès le 19e siècle sur la capacité de détruire. Mais ce qui est intéressant, et inquiétant, je dirais, c'est que souvent, nous ne devenons capables de prévoir nos désastres que quand ils commencent à avoir lieu. Et qu'au lieu d'essayer de réfléchir à l'avance, qui est un des moteurs et à mon sens un des fondements de la réflexion éthique, essayer d'imaginer les conséquences possibles de nos actions avant de les entreprendre. Et ce temps de réflexion et de réflexion collective me paraît essentiel. C'est réfléchir avant d'agir et non pas commencer à réfléchir une fois que les conséquences éventuellement délétères de nos actions apparaissent. Et je crois que ce que ça traduit, c'est ce temps de retard, c'est cette absence de réflexivité. C'est qu'on réalise que les choses vont mal une fois qu'elles commencent à aller mal, au lieu d'essayer d'imaginer. Moi, je crois qu'il y a dans la recherche comme dans la réflexion éthique une grande part d'imagination. Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée, alors que l'imagination permet d'embrasser l'univers entier. Et je crois que essayer de voyager à travers les possibles, à travers les mondes possibles, c'est quelque chose de très important avant de commencer à se confronter à la modification du réel. Et souvent, on a l'impression que c'est perdre du temps. Qu'au fond, on est pressé d'agir et puis on s'aperçoit que on n'a pas pensé ces conséquences. Donc je crois que ça nous dit quelque chose sur notre façon de construire des sociétés en passant trop peu de temps à réfléchir à la manière dont nous les construisons. C'est vrai au niveau des inégalités sociales, c'est vrai au niveau de la santé. Vous savez que c'est vrai particulièrement dans notre pays où, en ce qui concerne la santé, nous avons un des budgets, si ce n'est le budget de santé publique le plus élevé du monde, en tout cas un des plus élevés du monde. Nous consacrons, j'espère que c'est en train de commencer à changer, nous consacrons, à ma connaissance, 95% de notre budget de santé publique au traitement, c'est-à-dire à la réparation des maladies, et nous consacrons moins de 5% à la prévention. La Constitution, le préambule de notre Constitution dit que la nation garantit à chacun la protection de la santé. La protection de la santé, c'est pas simplement la réparation des maladies ou du handicap. La protection, c'est faire en sorte d'essayer de préserver la santé, de ne pas tomber malade. Donc je crois que ce déficit de prévention, il se traduit aussi à d'autres niveaux et pas seulement dans notre pays, c'est-à-dire une absence de réflexion sur les meilleurs moyens d'éviter les désastres. Et le problème n'est pas simplement de réagir le plus vite possible, ce qui est essentiel, c'est d'essayer de faire en sorte de les éviter au mieux ou de les retarder au plus.
En sachant que, comme on le disait depuis le début de cette émission, Jean-Claude Amezen, c'est que tout est lié, l'avènement d'une société industrielle et de consommation, l'épuisement des ressources, les maladies de l'environnement, réchauffement climatique, les guerres civiles, les réfugiés du climat, les tensions géopolitiques. On peut dérouler tout ça, toute cette chaîne presque en cascade des conséquences, des causes et des conséquences. D'où cette question, est-ce que la question environnementale a du mal à passer, selon vous, comme une priorité dans une société aujourd'hui malade, quand même?
Je crois qu'elle a du mal à passer parce qu'en fait, elle demande à aborder des questions qui sont indépendantes apparemment, comme vous l'évoquiez, des questions environnementales. Je m'explique. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que au moment de la COP21, qui était une initiative essentielle, à peu près le même mois, il y avait une autre initiative dont on a très peu parlé, une autre résolution qui s'est prise à l'ONU, et qui était les résolutions des objectifs de développement durable. Dans les objectifs de développement durable, il y a non seulement la prévention des changements climatiques, mais il y a la lutte contre la pauvreté, il y a l'accès à l'éducation, il y a l'accès à la nourriture, il y a le respect des droits fondamentaux. On a mis un accent extrêmement important au niveau international sur la COP21, objectifs de développement durable qui se déroulaient au même moment dans la même institution, il y a eu beaucoup moins d'écho. Et je crois que c'est symptomatique parce que lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas s'intéresser simplement à un problème du climat, c'est lutter contre des problèmes quotidiens aujourd'hui. Les gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique provoquent aussi la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est pas une menace pour demain. Elle tue aujourd'hui 40 000 personnes en France chaque année et des millions de personnes dans le monde. Et donc, lutter contre la pollution atmosphérique en prévenant des désastres en matière de santé, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, ça demande autre chose que simplement s'intéresser au climat, ça demande à s'intéresser à la vie quotidienne et à la santé quotidienne des personnes. Et on peut le décliner au niveau de l'érosion des sols, au niveau de la déforestation, au niveau...
De la perte de la biodiversité.
Absolument. Et donc, je crois que quand on parle de politique environnementale, en fait, c'est la question de savoir comment nous construisons notre manière de vivre ensemble. Et donc, ça pose des questions qui, a priori, n'ont pas de lien direct avec l'environnement. Ça pose des questions en termes de santé, ça pose des questions en termes de prévention, ça pose des questions en termes d'utilisation de l'énergie, ça pose des... Et donc, c'est ces questions-là, je pense, qu'il y a une difficulté à aborder. Et à juste titre, la plupart d'entre nous se préoccupent des conséquences environnementales, climatiques, sans aller jusqu'à se dire que c'est des changements profonds dans notre façon collective de vivre à l'échelle de l'humanité qui sont les seuls moyens de permettre de prévenir ces dégâts. Il y a un autre point qui me paraît important aussi, c'est que se focaliser sur l'avenir, les désastres qui risquent de survenir, les générations futures, c'est très important. Mais si c'est pour oublier le présent, c'est quelque chose d'assez tragique. Et dans le terme développement durable, en insistant sur le durable, parce que vous savez que tel que c'est défini, c'est un développement qui doit être équitable et durable. Mais on dit pas le développement équitable, on a choisi de dire le développement durable. Et donc dans une situation, aussi bien dans notre pays que dans le monde, et de manière beaucoup plus tragique dans le monde, mais dans notre pays... Il y a 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le dénuement, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'abandon. Dans le monde, la situation est infiniment plus tragique. Eh bien, un développement qui est équitable est un développement, à mon sens, qu'on a envie tous de faire durer. Insister uniquement sur l'avenir et sur le caractère durable, c'est prendre le risque de faire durer des tragédies. Et donc je crois que lorsqu'on se pose des questions aussi importantes, encore une fois, que les bouleversements climatiques, l'avenir de l'environnement, il faut se demander comment nous vivons aujourd'hui, modifier ces façons de vivre, le faire dans le souci d'une équité au niveau international et mondial. Et à ce moment, une fois qu'on a réussi à résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui, des gens qui ne mangent pas à leur faim, des gens qui meurent de maladies pour lesquelles il existe des traitements et des vaccins, d'arrêter les guerres, d'arrêter les conflits, d'éviter que des migrants meurent aux portes des pays qui leur refusent d'entrer, errent à travers l'Europe. Donc, avoir un monde, je dirais, humain, et faire en sorte qu'il soit durable. Mais ne pas préparer simplement pour les générations futures un monde inéquitable dans lequel il y a énormément de tragédies, mais dans lequel on se dit, comme on a l'expression qu'on a prêtée à la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Je pense que il faut que les choses soient vivables, et puis en plus, qu'il y ait un avenir qu'on puisse bâtir à partir de cette situation. Et je crois que ça, c'est des questions qui touchent encore une fois notre vie quotidienne, individuelle et collective. Et c'est ça qui a du mal à être véritablement pris en considération. et en se focalisant uniquement sur des choses un peu abstraites comme les changements climatiques ou la quantité de CO2 ou les érosions des terrains, on oublie. Au fond, on oublie les causes. Nicolas Hulot, en démissionnant, disait, 10 ans cité Bossuet, je n'ai pas regardé, je ne connais pas cette citation, mais j'ai trouvé en tout cas l'expression belle, que nous déplorons les effets dont nous célébrons les causes. On pourrait dire, nous déplorons certains des effets, certaines des conséquences négatives, dont par ailleurs, nous préservons les causes sans nous en soucier. Donc je crois que c'est ça qui est important. C'est encore une fois de l'ordre de la recherche. Comprendre, parce que c'est pas facile, comprendre les déterminants de la construction d'une société équitable, comprendre les déterminants de l'érosion de la nature, comprendre les déterminants des changements climatiques, et puis, à ce moment, essayer d'en éviter toutes les conséquences délétères.
Mais ça doit passer par quoi, selon vous, Jean-Claude Amezen, une écologie politique viable, une prise de conscience au niveau d'une société civile qui poussera peut-être les dirigeants à prendre d'autres décisions orientées vers une économie plus verte. On se rend compte qu'il y a des pays qui font figure d'exemple, comme le Bhoutan ou la Finlande. Finalement, on se dit, mais c'est passé par où ?
Il faut aller regarder... Et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans le domaine de l'accompagnement du handicap, c'est vrai dans le domaine de la scolarisation, c'est vrai dans tous les domaines. Il faut aller regarder les expériences dont nous avons l'impression qu'elles ont réussi et essayer de bénéficier, non pas de les transposer, parce qu'on ne transpose pas d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, mais essayer de comprendre encore une fois comment ça a été développé et comment on peut développer l'équivalent chez nous. Mais je crois profondément que c'est une question humaine, c'est-à-dire je crois profondément que nous regardons la nature et les dégradations de la nature alors que nous devrions regarder nos sociétés, nos relations et réaliser que, encore une fois, c'est la manière dont nous vivons ensemble, dont nous construisons nos sociétés qui entraîne ces dégradations. Et plutôt que d'essayer de prévenir les conséquences, nous attacher vraiment au problème et, en cours de route, essayer en plus de trouver les solutions qui soient les plus équitables. On peut avoir des solutions efficaces pour préserver l'érosion des terrains qui peuvent être délétères d'un point de vue humain. Et donc, en essayant de trouver les solutions les plus efficaces d'un point de vue environnemental, essayons parmi ces solutions de trouver celles qui, en plus, corrigent les inégalités, préviennent la souffrance et rendent plus humaines nos sociétés. Et c'est pour ça que je pense que se focaliser sur l'environnement, comme si cet environnement était indépendant de nous et que tout ce que nous pouvions faire, c'est lui apporter... du réconfort à quelque chose d'un peu absurde, puisque c'est une façon, c'est une forme d'alibi même inconscient pour ne pas regarder ce qui se passe dans notre humanité.
Mais cet environnement a aussi force d'exemple. On y puise des sources de biomimétisme, d'idées aussi, parce que les animaux, les végétaux sont source d'émerveillement et puis sont de belles leçons pour les humains.
Alors on épuise, moi je trouve qu'on épuise indépendamment des leçons, scientifiques et techniques merveilleuses, on épuise un émerveillement, en tout cas j'y puise un émerveillement depuis le début, et entendre, regarder, se plonger, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'œuvre de Bernie Krause, qui enregistre depuis longtemps les bruits de la nature, nous restitue une nature que nous n'avons pas l'habitude d'appréhender, puisque c'est comme si on était les yeux fermés, en train de l'entendre chanter. Et ce qu'il y a d'assez tragique et de très alarmant, c'est que la moitié des sites qu'il a enregistrés dans le monde soit sont muets, soit ont une musique qui s'est énormément appauvrie parce que les oiseaux, les insectes, les mammifères ont disparu. Donc il y a à la fois l'émerveillement et puis il y a cette alerte, je dirais, qui est vraiment émotionnelle, qui est une appréhension immédiate de la nature. Et puis il y a de la science. Parce qu'à partir de ces sonogrammes, on peut essayer de reconstruire des écosystèmes et des collectivités, non pas à partir de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Il y a des études qui m'ont paru très frappantes, faites au Canada et dans d'autres pays, qui disent que dans les villes où il y a un certain nombre d'arbres dans les rues, il y a moins de personnes malades que dans les quartiers où il y a moins d'arbres. Et puis qui disent aussi que des gens qui se promènent, des personnes qui se promènent pendant une heure ou deux par semaine dans des endroits verts, eh bien, chez ces personnes, il y a moins de dépression que chez les autres. Donc il y a aussi une vertu thérapeutique. Je veux dire, si la nature nous rend heureux, eh bien il y a cet effet sur la santé qui est que lorsqu'on se sent bien, ben, on va mieux. Et une vie moderne devrait pouvoir être conciliable avec une relation à la nature qui évidemment prend des formes différentes, prend des formes qu'il faut inventer, mais qui doit persister.
Dans votre vie, Jean-Claude Amezen, vous êtes devenu une voix, un conteur à la radio avec votre émission Sur les épaules de Darwin sur France Inter chaque samedi. Est-ce que vous vous sentez éveilleur de conscience et est-ce que c'est devenu effectivement un, peut-être plus qu'un rôle, mais une vocation ?
Bon, c'est une passion, mais je dirais comme la recherche l'a été, comme la démarche éthique l'a été. Et puis, c'est des rencontres. Hein. C'est Philippe Val qui lit un livre que j'avais écrit à propos de l'évolution dans la lumière et les ombres, Darwin et le bouleversement du monde. Et puis, qui m'appelle. Je ne le connaissais pas, en me demandant si je veux faire de la radio. Et donc, c'est né comme ça. Il m'a laissé totalement libre. Et j'ai choisi, alors ce qui peut-être était une vocation, mais de manière inconsciente, j'ai choisi la forme du conte, hein, la forme qui renvoie à l'enfance, c'est-à-dire le « il était une fois » pour essayer de dire ce qui me paraissait important, à la fois d'un point de vue des sciences du vivant, des sciences, de la philosophie, de la littérature, et puis d'essayer de mêler, de tisser tout ça ensemble, pour montrer ce que je sens profondément depuis l'enfance, qui est que, au fond, la science fait partie de la culture et qu'on doit lier art, réflexion, science, si on veut véritablement appréhender la réalité de la manière la plus riche possible. Et puis, pour moi, mais c'était la même chose quand je faisais de la recherche ou quand je participais à la réflexion éthique, pour moi, faisant cette émission, tissant ces récits, je suis un étudiant, j'apprends. Et ce que j'essaye de transmettre, c'est plus que toute autre chose, je crois, c'est une envie d'aller plus loin. C'est une envie de continuer le voyage, c'est une envie de s'ouvrir, c'est une envie de comprendre, c'est une envie d'apprendre, hein, plus qu'un contenu particulier. C'est pour moi un voyage sans fin, à travers un univers, une réalité, une nature, une humanité qui est toujours à découvrir, qui est toujours plus riche qu'on ne l'attend.
Transmettre, Jean-Claude Amezen, au-delà justement de cette volonté d'ouvrir un champ pluridisciplinaire, est-ce que vous avez aussi le sentiment de jouer un rôle, car la connaissance donne la liberté ?
Francis Bacon disait, ou en tout cas on lui attribuait cette phrase célèbre qui est « la connaissance c'est du pouvoir ». Et je crois qu'avec le pouvoir vient la responsabilité. Et que donc la connaissance est l'envie de connaître, l'envie d'apprendre, l'envie de créer. C'est quelque chose qui est à la fois une source extraordinaire de liberté et c'est en même temps une incitation, un appel à la responsabilité. Et la responsabilité, c'est le souci des autres, c'est le souci d'autre monde, c'est le souci de notre planète. Et donc je crois que ça va ensemble. Et puis il y a cette idée aussi qu'on n'en finit jamais de redécouvrir ce qu'on croyait connaître. Il y a un poème de T.S. Eliot que j'aime beaucoup qui dit « Nous n'aurons de cesse d'explorer et la fin de toutes nos explorations sera de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. » Et donc, on peut découvrir des choses nouvelles, on peut découvrir des choses dont on ne supposait pas l'existence, mais on peut aussi redécouvrir avec un regard nouveau des choses qu'on croyait évidentes, qu'on croyait connaître.
Et on dit souvent que le moi n'est jamais absent d'une narration, alors certainement encore moins quand cette narration prend le ton du conte et que vous y mettez beaucoup de vous-même aussi, hein, dans ce travail d'écriture et de narration, on peut en parler. Où est votre moi à l'antenne ?
C'est une étrange question, pour moi, je veux dire. Je dirais qu'il est en voyage. Je dirais que c'est, pour moi, c'est une façon d'aller à la rencontre de personnes que je ne vois pas, qui sont donc quelque part dans l'espace, dans le temps, hein, que je vais retrouver, et dont je n'aurai pour certaines d'entre elles qu'un écho plus tard, Donc j'aurai des mails, je reçois des lettres. Et donc c'est ce voyage, c'est cet entre-deux que je trouve très émouvant.
Et cette rencontre, elle se fait donc à travers des mails, à travers des lettres. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous apprenez de vos auditeurs?
Alors elle se fait à travers des mails, à travers des lettres, à travers des rencontres inattendues, à travers des... Moi, ce qui m'a le plus ému... au début, ce qui m'a le plus ému et qui continue d'émouvoir d'ailleurs, c'est les parents qui me disaient que leurs enfants m'écoutaient et qu'ils avaient 6 ans, 5 ans, 7 ans, 4 ans. Et donc très tôt, je me suis dit qu'il y avait différents niveaux d'écoute possibles et que ces récits pouvaient résonner et prendre sens de manière extrêmement différente et qu'on n'était pas obligé de tout comprendre. Qu'on pouvait entrer, qu'on pouvait avoir envie de découvrir. Et alors j'ai rencontré certains de ces enfants, parce que dans des salons du livre, ils viennent avec leurs parents. Je trouve ça vraiment, vraiment émouvant. Il y avait une mère qui a écrit que sa fille, qui était vraiment très petite, disait, je faisais une série d'émissions sur les fourmis, et disait, mais comment ce monsieur qui est sur les épaules de Darwin et qui est tellement haut peut voir ces toutes petites fourmis si précisément et si bien. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement, extrêmement émouvant. Et l'autre, c'est des personnes qui m'écrivaient en me disant « Je n'ai pas fait d'études et je découvre que je suis capable, que je peux m'intéresser à ces avancées de la science, à ces écrivains que vous citez, prendre leurs livres, le lire. » Donc c'est des écoutes très très différentes.
Donc avec ce souci de transmettre et d'être un éveilleur de conscience, vous avez souvent dit tout au long de cette semaine, Jean-Claude Amezen, nous sommes des héritiers et nous sommes des passeurs. Si vous regardez en arrière du côté de vos racines, de votre enfance, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une différence ou au contraire une filiation entre ce dont vous êtes héritier et ce que vous transmettez aujourd'hui?
Oui, avec la nuance suivante, c'est que je pense que au fond, être héritier, c'est avoir une conscience de ses origines, de ce dont on vient, mais que ça ne prend sens que si on part de là, non pas pour en être prisonnier, mais pour réinventer un avenir. Je pense qu'il faut... On vient toujours de quelque part, mais ce qui est intéressant, c'est d'en faire une leçon de liberté, de réinvention. Et donc, je pense que l'idée que je me fais d'une fidélité à mes origines, c'est une idée qui est reconstruite depuis longtemps, puisqu'au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je me réinvente une filiation imaginaire à partir de l'endroit d'où je suis parti. On ne cesse de se réinventer, et que c'est ce souvenir qu'on garde, ou cette empreinte qu'on garde de son point de départ, c'est un des moyens de se métamorphoser, de changer. Je crois au changement, je crois aux métamorphoses, je crois à ce qui nous permet de nous réinventer chaque jour. Et ces récits, pour moi, c'est une façon à la fois de réinventer notre regard sur le monde et puis de permettre aux autres de s'ouvrir et donc de se réinventer.
Merci Jean-Claude Amezen pour cette belle semaine passée avec vous.
Cette rencontre d'Aurélie Luneau avec Jean-Claude Amezen. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.